RFI. La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans la danse des mots à Roland Brival, puisque c'est notre invité du jour. Roland Brival, qui est musicien et écrivain, c'est plutôt comme écrivain qu'il est invité aujourd'hui, mais on ne se privera pas d'écouter sa musique de temps en temps. En attendant, il y a quelques semaines, vient de paraître aux éditions du Mercure de France son dernier livre, Les fleurs rouges du flamboyant, c'est sous-titré roman. Est-ce vraiment un roman? Peut-être qu'on en saura plus là-dessus dans une trentaine de minutes, nous allons voir. Bonjour Roland Brival.
Bonjour.
Merci beaucoup de venir avec votre bouquet de fleurs rouges du flamboyant sous le bras. Que vous intitulez ou que votre éditeur intitule roman, il s'agit de souvenirs. Je ne sais pas quelle est la part d'autobiographie là-dedans, je ne sais même pas s'il y en a et je ne vous le demanderai pas. Vous pouvez me le dire quand même. Mais en tout cas, c'est l'histoire d'un Antillais d'un certain âge qui a vécu la plus grande partie de sa vie d'homme en métropole et qui retourne à la Martinique et qui est assailli par un certain nombre de souvenirs. Il y a donc tout un travail de réécriture. Ce sont des souvenirs, ce sont un petit peu comme des mémoires de ce personnage qui revient dans cette Martinique où il a passé toute sa jeunesse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si ces deux séries finissent par se rencontrer. La série temporelle des moments qu'on se rappelle et qu'on écrit, et puis le temps de l'écriture lui-même. Bien entendu, quand on écrit des mémoires ou des souvenirs, il y a un moment où les deux finissent par se rencontrer. Ma première question est celle-ci. Est-ce que vous avez justement visé ce moment où ces deux diagonales allaient se croiser?
Sans doute, mais vous savez, on a guère d'opérations intellectuelles en cours lorsqu'on est dans le mouvement de l'écriture. Je lisais tout à l'heure une phrase de Marguerite Duras affichée sur vos murs, qui explique en gros un phénomène universel lorsqu'on est dans ces catégories d'activités, c'est qu'à un moment, on faisait double. Quelqu'un d'autre intervient, qui n'a ni nom, ni adresse, et qui s'installe aux commandes de votre corps, aux commandes de votre intellect, de vos émotions, et qui commence à dire des choses qu'à la limite, parfois, vous ne savez pas. Donc, je découvre souvent que mes livres, finalement, sont beaucoup plus intelligents que moi. En tout cas, les personnages qui les animent, parce qu'ils disent parfois les choses qu'on met parfois le temps d'une vie à découvrir. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Pour ce qui concerne l'aspect biographie de ce roman, vous savez, moi, je me suis toujours gardé, j'ai écrit peut-être 15, 17 romans, je ne sais plus, à ce jour, mais je me suis toujours gardé d'utiliser justement des éléments personnels, de manière trop évidente en tout cas, même si on parle toujours un peu de soi dans les romans. Mais j'ai refusé de faire cette autofiction parce que je savais que si je commençais par là, j'allais m'enfermer dans un modus vivendi qui me donnerait uniquement la possibilité de réécrire le même livre chaque fois. Et c'est bien vraiment quelque chose que je déteste absolument. Pour moi, l'écriture se compare un peu à l'architecture. Lorsqu'on crée une maison à la ville ou lorsqu'on crée une maison à la campagne, c'est pas la même maison. Il faut s'adapter au territoire. Lorsque j'écris dans le contemporain, par exemple, les phrases sont plus courtes, le rythme est plus urbain. Alors qu'un roman historique vous amène sur des plages où on peut s'éterniser sur une phrase. Voilà, c'est ce genre de choses qui se passent au niveau de l'écriture, dans les origines, on va dire.
Il n'empêche, Roland Brival, que votre livre est écrit à la première personne. Mmh. C'est un roman du jeu et qu'il oscille quand même entre le mouvement de l'écartèlement et celui de la réconciliation. Ce qui tient vraiment à la forme que vous lui avez donnée, puisque justement, votre personnage, il revient à la Martinique et il se remémore des choses très lointaines qui avancent de façon relativement linéaire. Pas totalement, mais en gros, il est petit, il naît de père inconnu, et puis on voit son grand-père, sa grand-mère, la Paulette qui tient toute cette affaire-là, toute cette famille, et puis toute la théorie des tantes et des oncles, et puis on le voit grandir, on voit ses premiers émois, son premier amour, le fait que sa mère décide de quitter la maison familiale, puis de quitter les Antilles pour venir à Paris, il commence des études études, elles sont difficiles.
C'est toute une vie.
C'est toute une vie. Et les deux temps se rapprochent. Est-ce qu'il s'agit quand même d'une pensée magique ou d'une écriture magique qui ferait que, on peut se dire, au moment où ça se touchera, il y aura une étincelle qui fera qu'on aura compris quelque chose? C'est pour ça que je parle d'écriture magique.
Bien sûr, ce que j'allais vous dire finalement en deuxième partie de ma réflexion là-dessus, sur votre première question, en somme, c'est que, pour une fois, j'ai fait une exception. Et que pour une fois, j'ai mêlé certaines...
J'aime bien votre paradoxe. Pour une fois, j'ai fait une exception.
Voilà. Et j'ai mêlé certains éléments, effectivement, de ma vie privée dans ce livre. Mm-hmm. Mais il est évident que très vite, les personnages qui s'installent demandent à être romancés. Donc, les gens de ma famille qui liront ce livre sont sans doute un peu troublés parce que il arrive que je me serve du prénom d'une tante et que je la colle au prénom d'une autre tante qu'on ne connaît pas. C'est un roman, il a sa vie entière. Donc, il ne s'agit pas d'une biographie. Et en ce sens-là, les personnages m'ont souvent emmené dans des territoires que je n'imaginais pas. Mais il y a effectivement un côté un peu, je ne sais pas si le mot magique est celui que j'emploierais, mais mystérieux de toute façon, dans le fait de se retrouver dans cette espèce de trajectoire parallèle. Mm-hmm. C'est d'ailleurs ce qui...
Magique, c'est peut-être pas le meilleur mot, je pourrais peut-être dire électrique. Ça me fait penser à une connexion, vous voyez.
Oui,
c'est
vrai.
Quand les deux fils finissent par se toucher.
Tout à fait. Il y en a une. Et le roman lui-même en parle et le développe, encore une fois, d'une manière que je n'attendais pas. Mais l'enjeu du roman pour moi justement, c'était de mêler deux types d'écriture totalement différentes. Cet homme est adulte, il a une cinquantaine d'années, il parle un langage qui est le langage d'un homme. Et en même temps, lorsqu'il évoque ses souvenirs, tout à coup c'est un gamin de 12 ans. Quand il démarre, c'est la voix du gosse. C'est pas lui en train de raconter à un gamin. Donc, il y a deux écritures différentes qui sont juxtaposées et qui s'entremêlent. Et il fallait faire en sorte qu'on ne voit pas la couture.
Curl Gypsy, c'est votre musique, Roland Bouyval, qu'on entend dans La Danse des Mots, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est de votre écriture qu'on parle. Alors, votre roman n'a rien de théorique, c'est pas une quête d'identité, pas uniquement. Et pourtant, de temps en temps, on se heurte aussi à une réflexion. Vous allez, si vous l'acceptez, nous lire un tout petit extrait de votre livre qui éclairera mieux ce genre de point.
Être noir, cela ne s'invente pas. Il faut le découvrir à travers l'intention d'un regard qui vous déshabille et cherche à vous contraindre à devenir un autre, celui auquel l'on s'attend. Il faut avoir entendu quelqu'un vous ordonner d'une voix sifflante de rentrer dans votre pays. Il faut avoir traversé le fleuve qui vous sépare de la normalité des gens pour comprendre que vous l'êtes soudain devenu cet étranger dont personne ne veut vraiment, mais dont certains finissent par mieux s'accommoder que d'autres. J'ignorais tout cela.
Alors, c'est un beau texte qui m'a quand même beaucoup étonné. Parce que souvent, on se dit, être qui l'on est, que ça soit être noir ou être autre chose, ça ne se découvre pas, ça s'invente. Et vous, vous dites le contraire.
Ah
vous
oui.
dites, ça ne s'invente pas, ça se découvre.
Ah oui, absolument. Si vous prenez le cas de la plupart des Antillais qui mettent pour la première fois le pied en métropole, lorsqu'ils arrivent sur le tapis roulant de l'aéroport, ça y est, ils ont compris. Ils ne sont plus ces hommes qu'ils étaient, qui finalement ne s'associent à aucune couleur particulière, mais simplement à l'idée de leur conscience, de leur identité normale, de leur humanité. Et tout à coup, ils arrivent à Orly et ils sont noirs. Et ils sont dans une histoire qu'eux-mêmes ne connaissent pas, puisqu'elle est multiple, cette histoire noire. Et ils se retrouvent immergés dans quelque chose qui les dépasse et qu'il va falloir assumer. Et ça, ils le découvrent, ils l'ont pas inventé, c'est clair. C'est le regard de l'autre qui produit cet élément. Alors aujourd'hui, toutes ces choses, tous ces conflits qu'on croyait un peu adoucis ou en tout cas largement résolus, tout à coup font de nouveau surface. On se retrouve face à des extrêmes, face à des mouvements, face à des opinions qui se tordent pour essayer de réduire l'humanité à un stade auquel elle n'est pas supposée être, c'est-à-dire celui de ceux qui se croient supérieurs et les autres. Alors, je crois que pour se protéger de ça, c'est peut-être ce que le roman m'a appris de mieux, c'est qu'il fallait échapper mentalement à ces catégories. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la prison mentale dans laquelle on est enfermé, et c'est le cas bien souvent dans une grande partie de nos vies. Mais là, aujourd'hui, on a des armes et des éléments qui nous permettent de mieux comprendre que tout ça n'est qu'un piège dans lequel on accepte ou pas de s'enfermer. L'homme est ailleurs, celui qui parle est ailleurs. Lorsqu'on est là en train de raisonner ou de discuter avec des amis ou d'accomplir la moindre tâche, on ne peut pas se dire noir parce qu'on ne l'est pas. Ça n'est qu'une invention, comme le mot liberté a été inventé, j'allais dire, par les Blancs, pour en contrepartie de cet esclavage qu'ils mettaient en place. Mais l'Africain dans sa savane ou dans son village d'origine ne s'est jamais posé la question de savoir s'il était libre. Il l'était, point. Donc tous ces mots-là, il a fallu les découvrir comme des outils qu'on nous donnait, des outils un peu tronqués, pour pouvoir se construire et se bâtir une identité. Et en définitive, on s'aperçoit que tout ça, c'était du vent. Et que il suffit de monter d'un étage, et tout à coup, tous ces paramètres n'existent plus. Enfin, ce qui est aussi assez curieux, c'est que cette société occidentale dans laquelle on a grandi s'est très peu souciée de la situation dans laquelle nous met la mort. Et de la conscience, de la prise de conscience qu'elle pose. C'est-à-dire, on se dit, bon, c'est demain, ce sera toujours demain, et pour les gens qui sont le plus proches, eh bien, soit on s'en écarte, ou soit on les accompagne, mais toujours dans un mode de cliché et de discours qui finit par tourner en rond sur lui-même. Parce qu'on ne s'aperçoit pas d'une manière assez claire, et c'est là le propos de la leçon que nous enseigne la mort, que lorsqu'on se retrouve face à cet ultime rendez-vous de l'humain, la véritable identité qui apparaît, ce n'est pas celle d'un noir, d'un blanc, d'un jaune ou d'un rouge, c'est celle de l'homme qu'on est. Et c'est autour de cela qu'il va falloir construire aujourd'hui. Tant pis pour ceux qui n'ont que la possibilité de voir la poutre dans l'œil du voisin. Mais nous, nous devons avancer. L'humain doit avancer. Et les générations qui sont en train en ce moment d'émerger n'ont pas les problèmes qui sont en train d'être ruminés en ce moment par des générations précédentes qui ont été, dont l'identité, dont la construction identitaire a été marquée par des conflits. La guerre mondiale, par exemple, c'est un traumatisme suffisamment grand pour que deux générations successives puissent considérer que ce qui est important dans la vie, c'est de sentir qu'on est national, qu'on est français, qu'on est allemand, qu'on est ce qu'on veut. Mais en réalité, qui nous a imposé ces normes ? Pourquoi est-ce que nous sommes fossilisés dans ce jeu qui n'arrive pas à trouver le chemin hors de ses limites? C'est parce que nous portons ce traumatisme de la guerre qui a été transmis, qui est même transmis dans l'enseignement de l'histoire.
Alors, vous parlez en effet de la mort dans votre livre, et on voit que les morts d'un certain nombre de personnages jalonnent la vie de votre héros Simon, et qui se construit, malheureusement, à partir de la disparition des gens qui l'ont aimé, que lui a aimé, etc. Mais vous parlez aussi incroyablement de la vie.
Et parce que les deux marchent ensemble.
Les deux marchent ensemble, mais cette vie, quand votre personnage y rentre aux Antilles, cette vie, elle commence par les narines, par les oreilles et par les yeux. Il y a une sensorialité extrêmement sensuelle, extrêmement plaisante, qui vous saute justement à tous les orifices par lesquels on peut appréhender le monde extérieur. Hein. Vous dites par exemple au tout début de votre livre, dans la chambre, l'aube distille sa lumière à travers les rideaux. Allongé dans mon lit, je me laisse bercer par le murmure lointain de la mer auquel se mêle le ronronnement assourdi du climatiseur. Cette nuit, je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Ça commence par des sons. Et ça continue parce qu'on voit, c'est une grande maison blanche de style colonial, coiffée d'un toit de tôle ondulé. Vue de la route, elle est cachée par un massif géant de bougainvillée. Bon, on voit les couleurs et on voit aussi les odeurs. Hein. Le ciel est balafré de flammes rouges et dans le verger, le feuillage des arbres sombres recouverts d'une rosée de sang. C'est l'heure où s'éteignent les rumeurs de la nuit pour céder la place au chant du coq et au bruissement furtif du colibri. L'heure où les fleurs du jardin de Mont-Elmire, parsemées de fils d'or, ouvrent leurs pétales et où monte dans l'air une senteur de vanille et de citronnelle charriée par le vent descendu des collines. C'est bien parce qu'on a les trois dans ce paragraphe. On a d'abord les flammes rouges, ensuite les rumeurs de la nuit et après les senteurs des fleurs. La vie, elle vous arrive avec cette sensorialité?
Dès qu'on débarque aux Antilles, c'est la première sensation qu'on éprouve, c'est que tout à coup, on est connecté avec un monde naturel, avec une force tellurique qui n'existe plus dans les villes, où tout cela a été en quelque sorte éteint pour être remplacé par d'autres types de rapports entre notre corps et le monde extérieur. Mais quand on arrive, il suffit de débarquer de l'avion pour aussitôt ressentir toute cette floraison de parfums, d'odeurs, et ce ne sont pas des clichés, c'est bien réel. Alors évidemment, dans ce roman, il y a eu un moment où il va se balader au marché et où il sent, où il appréhende, il anticipe quelque chose dont il se souvient de très très loin, depuis son enfance. Les odeurs particulières qui vous prennent, c'est un marché de senteurs en fait, avant d'être un marché où on vend des produits.
Et les souvenirs sont suscités par cette sensorialité?
Absolument, parce que là c'est un peu, c'est le côté Madeleine de Proust évidemment, mais Proust n'a rien inventé dans ce sens, et ce qu'il dit est vrai. Beaucoup de souvenirs sont connectés à des odeurs, à des parfums, à des sensations de goût, et qui sont beaucoup plus, ces souvenirs sont beaucoup plus accrochés en nous et dans notre mémoire que ceux qui volettent sur le simple point de vue intellectuel, mais qui ne s'accrochent pas à des références réelles.
Alors, on voit tout ça dans votre livre, mais on voit bien autre chose aussi, en particulier la famille. Et cette famille, d'abord, elle est nombreuse et elle est bizarre parce que votre héros, il a une mère, donc il a eu à 17 ans d'un homme dont on ne connaît rien et dont il va justement essayer de savoir un petit peu qui c'est. Et on aura peut-être une clé ou l'ombre d'une clé à l'extrême fin du roman. Mais il y a surtout les deux grands-parents qui sont Mont-Elmire et pas Raphaël. Et autour, toute une série, donc les tantes, et il y en a plein. Alors, il y a Lise et Jenny et Inès pour les filles, mais les garçons, il y a José, Fulbert, Georges, Jérôme, Émile, Antoine, Marcel, et tous ces gens, on a l'impression qu'ils n'ont pas de femmes pour les hommes, elles n'ont pas d'hommes pour les femmes, et ils n'ont pas d'enfants. Il n'y a pas de cousins. Alors, ça fait bizarre, ça fait comme un espèce de parasol, mais rien n'en tombe.
Oui, c'est vrai, parce que si vous voulez, à cette époque, il faut dire aussi que ses oncles et ses tantes, disons qu'on devenait adulte beaucoup plus tard. Voilà, donc jusqu'à 20 ans, à cette époque, on parle des années 50-60, on pouvait encore être considéré comme un gamin, quoi. 18 ans, c'était pas encore l'âge. Et puis il y avait cette autorité patriarcale du grand-père qui régnait sur tout cela. Donc on peut dire que d'une certaine façon, ses oncles et ses tantes sont effectivement des fruits en maturité. À l'époque où se déroule le roman, l'enfance de ce garçon, ils sont pas encore mariés, etc. Donc voilà. Et c'est, il y a un endroit plus tard dans le livre où il évoque des réunions comme ça, où il a une réunion avec ses tantes et ses oncles, ceux qui restent, et le déjeuner prend tout à coup ça déborde parce qu'il y a des cousins, mais je ne m'appesantis pas sur ces paramètres parce que le vrai sujet du roman, évidemment, c'est le rapport qu'il conserve lui avec ses oncles et ses tantes.
Cassé dans la danse des mots, mm-hmm. C'est de nouveau vous, Roland Brival, qu'on mm-hmm. entendait pour parler de votre livre « Les fleurs rouges du flamboyant », qui est traversé, bien entendu, par des mots, par les mots du récit, mais pas uniquement. Et en particulier, à un moment, vous parlez des parties de domino. Et on sait qu'aux Antilles, on joue beaucoup au domino. Des parties de domino, des parties de dés, des parties de cartes qui sont accompagnées de joutes verbales. Où on se ment ses billes. Alors, je vais pas prendre l'accent créole, je ne le connais pas. L'as, ça casse, asséné ailleurs un autre, en abattant un carré d'as. Alors ça aussi, ça fait partie de vos souvenirs. Tout ce qui, non seulement est du créole, mais fait partie de ces exclamations, justement, à la fois joute et ponctuation de la vie.
Tout à fait. Mais c'est vrai aussi que là, on est dans une frontière du langage qui est tout à fait intéressante. Parce que, c'est là où le créole commence à manipuler la langue française, à s'en inspirer, à jouer avec les allitérations, avec les sonorités. Et là, on rentre dans une espèce de jubilation autour de l'acte, quoi. C'est-à-dire que chaque acte est accompagné de son verbe. Et à partir de là, ça lui donne une force d'autant plus grande.
Et puis, est-ce que ça fait changer un petit peu la frontière entre ce que c'est qu'un acte et ce que c'est qu'un mot, justement. Vous savez, de temps en temps, on dit les mots sont des faits, les mots sont des actes. Est-ce que la frontière est différente aux Antilles et dans l'Hexagone?
Ça me rappelle une anecdote que raconte Lévi-Strauss dans Triste Tropique. Il rencontre un noir dans la brousse, armé d'une machette, et lui demande « Où vas-tu ?» Et l'autre lui répond, je vais chercher un tambour que j'ai offert hier à la divinité. Alors il dit, mais comment, tu as offert un tambour que tu n'avais pas encore? Il dit, oui, mais le fait de l'avoir offert et de l'avoir dit, l'acte est posé, c'est fait. Là maintenant, il s'agit d'aller accomplir la formalité, d'aller chercher le tambour.
Il n'y a plus qu'à réaliser. Voilà. Mais le tambour est fait puisque j'ai dit qu'il était fait.
Alors,
et que je le donnais.
Dans les situations où on est justement dans ces mondes dits non civilisés, Mais c'est leur chance, parce que en quelque sorte, ils n'ont pas été confrontés à la dégradation lente de toutes les postures du langage qui pourraient aujourd'hui nous servir et qui ne sont plus usitées. Disons que dans ces pays-là, la parole vaut l'homme. D'ailleurs, ça n'est pas qu'une chose qui doit rester limitée à ces pays. Nietzsche, par exemple, se retrouve à parler de la force de la parole dans ses textes pour dire que ce que dit l'homme, c'est ce qu'il est. C'est pas je dis cela et ensuite on va aller chercher un avocat pour démonter ce que j'ai pu dire, on va chercher des preuves ou des conséquences. Non. L'homme est d'abord une parole. Parce que dans cette parole, il y a l'intention de l'acte qu'il veut poser, et que c'est d'abord l'intention qui compte. Un acte posé sans aucun sens n'a pas de vie, c'est juste un épiphénomène. Mais un acte qu'on pose en sachant pourquoi on le fait, de l'avoir dit suffit, parce que l'énergie suit la pensée.
Dire, c'est faire.
Dire, c'est faire. Totalement. Il y a un monde du faire qui se situe à la frontière de ce qui est rêvé ou de ce qui est imaginaire, et qui déclenche autant d'énergie que si vous faisiez l'acte dans votre corps. Le corps se met à faire une danse parce que vous avez appelé une énergie pour un certain acte. Il se met tout de suite. Vous sentez que vos émotions, votre mental, se met en posture en fonction de cette parole que vous avez dite. Et là, quand on est dans ce vertige-là, on sait qu'on est au cœur de la vie, quoi. Voilà.
Est-ce que vous pensez, Roland Brival, qu'il y a certaines façons de parler, ou même certaines langues, qui sont plus proches de cette conviction, justement, que dire, c'est faire, et qu'il y a des pouvoirs spéciaux qu'on peut donner à la parole?
Ah, tout à fait. Il y a un certain nombre de sociétés, qui seraient vain d'essayer d'évoquer ici, tant tout cela nous détournerait du sujet, mais ce que je veux dire,
c'est que... Non, c'est le sujet, je trouve.
Non, mais c'est que... je crois que... Cette chose-là que pose la parole, ça a à la fois la force de l'acte, mais ça s'appuie sur un mystère. Ça a aussi la force du silence. C'est-à-dire que la parole, elle traîne avec elle un silence qu'il s'agit d'entendre. C'est au-delà de ce qu'elle dit, elle traîne un silence, et ce silence, en fait, c'est ce qui nous relie à la nature du cosmos. C'est ce qui fait de nous des hommes avec un sens sur cette terre. Et lorsqu'on évoque la parole à ce niveau-là, de la prise en compte de tout, on se retrouve effectivement dans un niveau qui est très différent. Mais il faut aussi, pour cela, garder en soi ouverte la capacité de s'émerveiller, parce que ça, c'est une chose qui se dégrade beaucoup et dont on a finalement extrêmement besoin. Là, je suis en train de vous parler. Ça veut dire que je mastique une colonne d'air qui passe à travers mes cordes vocales, qui sort de ma bouche et qui vous atteint l'oreille à la vitesse du son. Votre cerveau instantanément comprend ce que je suis en train de dire, le décode en faisant, et tout ça dans un millième de seconde. Ça veut dire que là, on est dans la magie. Et ça veut dire que la parole, vue comme ça, doit être respectée. Parce que c'est quelque chose qui nous traverse comme un grand souffle et qui n'est pas fait pour être galvaudé. Voilà. Ça n'empêche pas qu'on puisse plaisanter, faire les blagues, tout ce qu'on veut.
Oui. Mais il s'agit... C'est vrai qu'on se retrouve, j'ai l'impression, avec votre livre, dans une société où on n'est pas forcément dans la société de l'écrit. Dans la société de l'écrit, ce qui compte, c'est signer.
Tout à fait.
Quand il y a la signature, on est obligé de dire oui. Alors que là, on est dans une société de la parole donnée et en même temps une certaine société de l'ivresse de la parole. Par exemple, quand on va cueillir des mangues, on ne cueille pas simplement des mangues, mais on cueille des bassignacs, des magotines ou des zéphyrines. Ben écoutez, merci beaucoup Roland Brival d'être venu nous parler des fleurs rouges du flamboyant, paru tout récemment au Mercure de France, dont vous avez parlé dans cette danse des mots proposée par le réseau Canopée et par RFI. Merci Roland Brival. Toute l'équipe vous dit à très bientôt, c'est-à-dire Yann Leny, Véronique Durand, Olivier Roux, Yvan Amar.
C'était un grand plaisir, je vous remercie tous.